Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing Électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accord DIAC, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
18h30 tout pile sur RMC. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Intégral Sport. On est ensemble jusqu'à 19h. Intégral Sport raccourci évidemment après cette nouvelle journée passionnante sur les routes du Tour. On vous rappelle la victoire de Thomas Pidcock, le Britannique, au sommet de l'Alpe d'Huez. Jonas Vingegaard, le Danois, conserve son maillot jaune de leader devant Tadej Pogacar. Romain Bardet limite la casse, il est toujours dans le coup pour le podium. On en reparlera dès 19h. Nous, tout de suite, on va filer à Rotherham, le nord-est de l'Angleterre. Deuxième match de poule pour l'équipe de France féminine à l'Euro contre la Belgique. L'objectif, assurer la qualif pour les quarts de finale. Dès ce soir, on va en parler avec Anthony Reich. Dans 5 minutes, on parlera également du Mercato, le Mercato Show avec Loïc Tanzi. Le PSG qui souhaite prolonger Léo Messi, voilà les infos de Loïc à venir. Et puis à 18h45, la présentation des championnats du monde d'athlétisme qui démarre demain à Eugene. Décor mythique et symbolique. C'est parti pour l'intégration. Terminé le travail pour passer à la suite. Deuxième match de poule à l'Euro donc pour l'équipe de France féminine ce soir contre la Belgique. Rendez-vous à 21h sur RMC qui est la radio officielle de l'Euro féminin. Des Françaises qui souhaitent enchaîner après leur magnifique victoire 5 buts à 1 contre l'Italie lors du premier match. Anthony Reich, évidemment, est le spécialiste du foot féminin sur RMC. Salut Anto.
Salut Ben, bonsoir à tous.
Écoute, la mission est assez simple. Tu gagnes et tu es en quart de finale ce soir.
Oui, exactement. Il faut finir le travail. C'était le mot d'ordre hier de Wendy Renard, la capitaine, et Corinne Diacre, la sélectionneur. Bien finir le travail pour aller chercher cette qualification. Tout simplement, comme tu le disais, Benoît, si l'équipe de France s'impose ce soir face à la Belgique, ce qui ne devrait pas poser énormément de soucis aux Bleus, vu la classe d'écart entre les deux équipes, eh bien, les Bleus seront qualifiés pour ces quarts de finale de cet Euro ici en Angleterre et avec des résultats favorables, à savoir dans l'autre match du groupe qui se déroule entre l'Islande et l'Italie. Et bien, si l'Islande ne s'impose pas face à l'Italie, donc s'il y a match nul ou défaite de l'Islande, et bien les Bleus composteront directement et valideront directement la première place du groupe, ce qui sera un énorme soulagement et une énorme satisfaction pour les coéquipières de Wendy Renard.
Et ce qui peut être important, parce que tu peux faire souffler sur le troisième match de poule. Exactement. Qui sera disputé face à l'Islande et te projeter ensuite vers les quarts de finale. Et
c'est ce que le staff d'ailleurs projette, c'est-à-dire que s'il y a qualification avec première place ce soir, on pourrait voir une rotation, d'après nos informations, de 4 à 5 éléments lors du dernier match.
Ce qui est plutôt logique, d'ailleurs, parce que lors de cet Euro, l'équipe de France, si elle va au bout, va jouer tous les 3 jours jusqu'au bout. Donc il faut préserver les organismes. Le piège peut-être à éviter ce soir, Anthony, c'est de ne pas tomber dans l'excès de confiance. On a vu une première période fantastique face à l'Italie avec le triplé de Grass-Gueioro, ce 5-0 à la pause. Il ne faut pas rester là-dessus, il faut se remettre au boulot pour ne pas prendre la Belgique de haut, a priori.
Ouais, tout à fait. L'équipe de France a impressionné toute l'Europe du football féminin avec cette magnifique performance face à l'Italie. Et clairement, il n'y a pas eu d'excès de confiance au sein des Bleus. Elles ont très vite switché, très vite basculé sur la Belgique. Dès le décrassage du lendemain de cette victoire face à l'Italie, eh bien, les joueuses, elles étaient déjà on reste calme. C'était vraiment le mood du jour. C'est on reste calme, on reste concentré. Il y a encore du travail à faire. On peut encore s'améliorer parce que dans la deuxième période, il y a eu des petits trous d'air. On a gaspillé un peu d'énergie avec une vigilance un petit peu moins importante parce qu'il y avait un score large. Et on peut encore faire mieux. On peut encore aller plus loin. Et surtout, nous, on veut 6 fois 90 minutes aller au 31 juillet, aller chercher cette finale pour aller décrocher le premier titre de l'équipe de France. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est qu'après un 5-1, on peut très bien aller se laisser aller à l'euphorie. Et bah, pas du tout. Dans le vestiaire, juste après la rencontre, la récupération était déjà mise en place. Les filles pensaient déjà à retrouver des forces, à retrouver de l'allant pour aller chercher une deuxième victoire face à la Belgique ce soir.
Est-ce qu'il y a un adversaire qui est plus à privilégier pour les quarts de finale, puisque le groupe qui nous concerne, nous on est dans le groupe D. Dans le groupe C, il y a deux immenses favoris, les Pays-Bas et la Suède, qui avaient démarré d'ailleurs par un match nul l'une contre l'autre, ces deux nations. Il vaut mieux croiser les Néerlandaises ou les Suédoises, à ton avis?
J'aurais envie de dire les Néerlandaises parce qu'elles ont perdu leur gardienne et capitaine qui est un élément aussi important que Wendy Renard en équipe de France. Et puis elles ont perdu aussi Viviane Miedema, qui est une des meilleures attaquantes européennes, la joueuse qui a évolué notamment ces dernières saisons du côté d'Arsenal, parce qu'elle a été testée positive au Covid. Donc c'est une nation qui est un peu en proie au doute ces derniers jours, même si hier elles se sont imposées face au Portugal difficilement, il faut le rappeler. Ça m'a un petit peu surpris, mais ça montre quand même que les Pays-Bas en ce moment sont peut-être un petit peu moins bien. Il faudrait plutôt prendre les Pays-Bas que la Suède qui a quand même été assez impressionnante, notamment lors de ce début d'Euro.
Et puis si on veut revenir au match de l'équipe de France face à la Belgique ce soir à 21h, parlons d'un cas individuel, celui de Kadidiatou Diagne, cadre de l'équipe de France, cadre du Paris Saint-Germain, qui a un objectif tout de même ce soir, c'est enfin débloquer le compteur avec les Bleus dans une grande compétition. C'est quand même assez dingue cette stat, qu'elle n'ait pas encore marqué dans une grande compète.
Ouais, c'est assez fou. Kadidiatou Diagne, c'est tout simplement l'une des meilleures au monde à son poste, au poste d'ailière droite. Une des joueuses cadres de Corinne Diacre, une des joueuses cadres de l'équipe de France depuis pas mal d'années. Elle fait partie des plus capées dans ce groupe France. Et dire qu'elle a découvert le foot au pied des immeubles dans la cité des combattants du côté d'Ivry-sur-Seine en Ile-de-France, et qu'elle avait été repérée à l'époque par un éducateur local, alors qu'elle s'amusait juste comme ça. Et puis elle avait même failli arrêter le foot par le passé. Eh bien, elle a quand même eu raison de continuer. Et aujourd'hui, c'est fou, tu le disais, cette stat incroyable. C'est une des meilleures passeuses et une des meilleures buteuses du championnat de France. Elle a mis 13 buts cette saison et le compteur est toujours bloqué en compétition internationale avec l'équipe de France. 0 but et très peu de passes décisives également, alors qu'elle fait des différences incroyables en un contre un. Elle a une puissance, elle a des appuis qui font vraiment subir et souffrir n'importe quelle défense au monde. Souvenez-vous de la détresse de la défense italienne lors du premier match qui ne savait plus où donner de la tête. Et c'est souvent comme ça avec Kadidiatou Diagne, mais il manque ce dernier geste. Elle est très opportuniste et elle est très collective en équipe de France. Il faut juste débloquer ce compteur et je pense que derrière ça va partir très fort. Et c'est certainement l'une des armes les plus importantes offensivement. Elle compose un trio exceptionnel, unique en Europe, avec Delphine Cascarino sur le côté gauche et Marie-Antoinette Katoto dans l'axe. Corinne Diacre a vraiment un trio de choix et incarné sur le côté droit par Kadidiatou Diagne.
Et ben on espère que le compteur sera débloqué. Merci Anthony. On rappelle France-Belgique à suivre en intégralité sur RMC dès 21h avec Jeannot Essegui, avec Anthony Reich, avec Sébastien Piocel, RMC, qui est la radio officielle de l'Euro féminin.
RMC, le Mercato Show.
Le Mercato Show avec Loïc Tanzi. Salut Loïc.
Bon, salut à tous.
Comment ça va?
Ça va et toi?
Bah ça va, impec. Pas mal d'infos Mercato
comme tous
aujourd'hui
les jours.
À donner, comme tous les jours.
Exactement.
Tu continues de bosser, plus pour très longtemps, mais tu continues de bosser. Évidemment, on parle du PSG, Loïc. Le PSG qui souhaite prolonger Léo Messi. C'est une info qu'on peut confirmer aujourd'hui.
Ouais, information de nos confrères espagnols de Marca, qui en ont fait la une ce matin de leur journal. On peut confirmer donc cette information. Le PSG qui aimerait bien mettre une année supplémentaire à Lionel Messi. Messi qui a signé pour 2 ans l'année dernière quand il est arrivé. Il lui reste donc une année de contrat. L'ambition du PSG à la base, c'était de faire signer 3 ans Lionel Messi ou un 2+1. Finalement, il s'était mis d'accord sur 2 ans avec l'Argentin. Et là, ils sont revenus un petit peu à la charge, mais sans proposition concrète. En fait, ils sont juste revenus pour parler à l'entourage de Messi, pour leur dire, voilà, exactement, pour lui dire, on avait déjà parlé d'une 3e année avant que tu arrives. Est-ce que c'est une possibilité pour toi? Est-ce qu'on peut commencer à en discuter, parce qu'on sait que ce genre de négociation est toujours un petit peu long pour les joueurs comme Messi. On l'a vu avec Mbappé, on l'a vu avec Neymar déjà la saison dernière. Donc pour l'instant, on n'en est qu'au début, mais il y a cette volonté du côté du PSG de rajouter une année à Lionel Messi.
Est-ce que c'est une façon de lui dire aussi, on ne s'inquiète pas après ta saison qui a été mitigée?
Oui, même si
il y a un calcul financier derrière.
On considère qu'elle est mitigée au PSG cette saison de Messi, c'est une vérité, mais on considère pas qu'elle est ratée. Il met 11 buts, 15 passes décisives dans une équipe où il n'a pas trouvé vraiment sa place, et on pense qu'il va faire une meilleure saison cette saison, et surtout là on parle que de sportif, mais sur le hors sportif pour l'instant c'est une réussite énorme. Il rapporte de l'argent Messi plus qu'il en coûte,
ça c'est sûr,
au Paris Saint-Germain. Donc c'est vrai que le club voit peut-être aussi ce côté-là pour essayer de le prolonger année. Il faut voir ce que lui a envie. Est-ce qu'il se sent un peu mieux à Paris? Oui. Est-ce qu'il se sent mieux? de là à rester encore une saison supplémentaire, on le sait pas. Et on sait qu'il a aussi des intérêts peut-être à finir son aventure et sa carrière en MLS.
Ouais, ça c'est vrai qu'il en a parlé il y a quelques années. Ça pourrait l'intéresser de pourquoi pas terminer aux États-Unis. Justement, le PSG qui doit vendre cet été, on vous le dit depuis plusieurs jours. Il y a peut-être une piste pour le Titi Arnaud Kalimuendo qui était prêté ces deux dernières saisons au RC Lens. Il est convoité, Kalimuendo.
Ouais, qui a fait une bonne saison à Lens, 13 buts avec le Racing Club de Lens, qui est né en 2002, qui a 20 ans seulement, Kalimuendo. Et qui intéresse Leeds en Angleterre, Leeds qui est en train de se faire un vrai projet en Première Ligue. Et il y a des négociations poussées déjà entre les dirigeants de Leeds et ceux du PSG, avec Nasser Al-Khelaifi notamment, qui discute aussi dans ce dossier-là avec son homologue anglais autour d'un transfert qui pourrait se régler entre 20 et 25 millions d'euros. Ça dépend des bonus, une belle vente
une belle somme,
pour le PSG, qui cherche à séparer de joueurs, mais surtout à vendre et pas trop cher, essayer d'avoir une valeur marchande des joueurs qui reste élevée. Ça, c'est le rôle d'Antero Henrique, de déterminer la valeur marchande de négocier au mieux les ventes du PSG. Donc c'est pas fait, il n'y a pas d'accord encore entre les deux clubs, mais Leeds pousse. Leeds aujourd'hui est l'équipe la plus intéressée pour Kalimuendo. Il faut voir si lui a envie d'y aller, c'est pas une certitude encore, parce qu'il y a l'Inter Milan aussi derrière qui a montré un intérêt.
Ah oui,
ouais. La question, c'est ce qu'il préfère aller à l'Inter, peut-être, où c'est plus compliqué de jouer dès le début, plutôt qu'à Leeds, où il y aura peut-être une place un peu plus facile.
Mais il n'y a pas une option pour mêler le dossier Skriniar, Kalimuendo, tout ça?
C'est dans les clous.
Ça peut discuter autour de ça. Ok Loïc, et puis on voulait terminer par ce joli coup réalisé tout de même par l'AJ Auxerre, qui a trouvé un gardien d'expérience pour lutter pour le maintien.
Benoît Costil qui va rejoindre l'AJA, l'international français. Il a une sélection, Benoît Costil en équipe de France. C'est en 2016, c'est un peu loin, mais il a une sélection. Et donc 35 ans, il va quitter Bordeaux, fin de son contrat.
Il a été rappelé la saison dernière en tant que troisième gardien.
Exactement, et il jouera l'année prochaine à l'AJA. Il avait eu des touches, Benoît Costil, notamment, alors ça peut paraître un peu fou, mais notamment Manchester United qui s'est intéressé à lui, qui cherchait un numéro 2. Ils ont vendu Dan Anderson à Nottingham Forest. Ils cherchaient un numéro 2, numéro 2 bis, un petit peu d'expérience. Ils avaient pensé à Benoît Costil qui était dans la liste à Manchester United, mais il veut jouer. Benoît Costil a 35 ans et il va donc jouer encore en Ligue 1 à l'AJA.
Je vous rappelle que les infos Mercato sont à retrouver sur rmcsport.fr. 18h41, c'est une page d'RMC qui se tourne, évidemment, parce que notre ami Loïc Tanzi vient de fêter sa dernière au micro d'RMC. Ouais. Voilà, 5 belles années passées avec nous. Voilà, donc
c'est top.
Sache qu'on a été très fiers et très heureux de bosser avec toi.
Ben, moi aussi.
Que ce soit professionnellement ou même personnellement. Voilà, tu vas manquer à toute la rédac d'RMC, d'RMC Sport et la Pay TV, etc. Tout le monde est d'accord pour le dire. Donc merci Loïc. Bon
merci
vent
beaucoup.
À toi. Une nouvelle aventure. Et tu seras toujours le bienvenu au micro d'RMC, quoi qu'il arrive.
Une belle histoire. J'ai passé 5 années merveilleuses à RMC, donc je remercie tout le monde et les auditeurs, bien entendu, parce que les auditeurs, c'est le plus important encore.
C'est sûr. Merci Loïc,
merci
pour tout. En tout cas, 18h42 sur RMC dans un instant. Eugene au programme, les championnats du monde d'athlétisme qui démarrent demain. Une première aux États-Unis. On retrouvera Aurélien Pierre-Saint qui est sur place. Salut, à tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
18h45 sur RMC l'Intégral Sport jusqu'à 19h, évidemment, heure à laquelle vous retrouverez Christophe Cessieux et toute la bande de l'After Tour pour débriefer cette étape, cette 12e étape, l'arrivée au sommet de l'Alpe d'Huez, étape remportée par Thomas Pidcock, le Britannique d'Ineos. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est le classement général. Jonas Vingegaard qui a résisté aux attaques de Tadej Pogacar. Vingegaard toujours en tête avec 2 minutes 22 d'avance sur Pogacar. Et on rappelle également que Romain Bardet a limité la case. Vous aurez un grand débrief avec Christophe Cessieux, Cyril Guimard, Jérôme Coppel et Pierre-Yves Leroux à partir de 19h. On voulait parler en tout cas des mondiaux d'athlétisme qui vont démarrer donc demain. Je vous rappelle que l'anomalie va enfin être corrigée puisque les États-Unis vont accueillir les championnats du monde d'athlétisme pour une première dans l'histoire, une compète qui est vieille de 40 ans. On rappelle que les athlètes américains ont remporté 16% de l'intégralité des médailles distribuées depuis la première édition qui se déroulait à Helsinki en 1983. C'est dire l'importance des États-Unis dans ces mondiaux d'athlétisme. On prend donc la direction de Eugene en Oregon, à 2 heures de route de Portland, retrouver Aurélien Tiersin. Salut Aurél.
Hi guys. Ça va? Ah, ils ont de l'énergie. Ici, ils ont tous de l'énergie. On peut pas leur enlever ça. Ils sont tous souriants. C'est insupportable.
Ce qui est sympa, c'est qu'il n'y a pas de distraction. Donc, t'es obligé d'être concentré sur l'athlétisme, quoi.
Ah bah c'est Tracktown, hein, c'est la ville de l'athlétisme. En face de mon hôtel, je vais pas vous mentir, j'ai des forêts de sapins et des montagnes à perte de vue. C'est magnifique, mais c'est vrai qu'on n'a pas grand chose d'autre à faire que aller au stade d'athlétisme.
Alors Aurélien, on va juste faire la carte postale de l'endroit où tu te trouves. Donc Eugene en Oregon, des mondiaux d'athlétisme qui, je le disais, vont se dérouler pour la première fois aux États-Unis. Le site est pas anodin, c'est vraiment le entre guillemets la mecque de l'athlétisme aux États-Unis. Il y a souvent les sélections américaines qui sont d'ailleurs terribles à chaque fois qu'il y a une grande échéance qui approche, qui se déroule régulièrement en Oregon. Hein.
Exactement, ça fait 40 ans que les trials américains, les championnats des États-Unis ont lieu ici. C'est un stade mythique, le Hayward Field. Il existe depuis 1919. C'est un stade qu'on ne connaît pas du tout en Europe. Il est vraiment dédié exclusivement à l'athlétisme. On fait ni de football, ni de baseball. On fait rien d'autre que de l'athlé. Donc vraiment, les aires de lancer sont magnifiques, par exemple. Et en plus, le stade a été rénové en 2020. Donc il est flambant neuf. Il y a un écran géant. Il y a 24 000 places. Pour ce stade qui est au cœur du campus de Eugene, qui est une ville quasiment exclusivement universitaire. Donc tout ça est assez mythique. On peut écouter Romain Barras, d'ailleurs directeur des équipes de France, sur le fait de voir ces championnats du monde pour la toute première fois aux États-Unis. Il aura fallu attendre la 18e édition pour voir les mondiaux aux États-Unis, et ça va être très sympa selon Romain Barras.
Si, forcément, les États-Unis, ça représente quelque chose pour les athlètes. C'est le berceau aussi un des berceaux de l'athlétisme moderne. Et puis forcément, Hayward Field avec tout ce que comporte les anciennes légendes du demi-fond là-bas. Donc forcément, ça va résonner pour certains athlètes, c'est sûr.
Voilà, Eugene, c'est mythique pour cet Hayward Field, également pour l'une des marques les plus connues au monde, Nike, hein, qui est née justement dans cette petite ville des États-Unis. Hein.
Ouais, exactement. Les deux cofondateurs de la marque sont originaires de Eugene. Alors la petite histoire, c'est que d'abord c'était des fans d'athlètes qui faisaient venir des chaussures, notamment de la marque Asics, qui est une marque japonaise. Et puis à un moment donné, ils se sont dit, est-ce qu'on fabriquerait pas nous-mêmes nos accessoires sportifs? Et puis voilà, ils ont créé la marque Nike. On dit Nike ici d'ailleurs.
Nike, ouais, c'est vrai.
C'est un peu perturbant pour nous. Et puis ils se sont développés à partir de Eugene. Aujourd'hui, le siège de la marque est à Beaverton, qui est un petit peu plus près de Seattle, c'est au nord dans l'état de Washington, mais évidemment c'est une marque qui imprègne tout l'esprit de Eugene. Il y a une équipe de football américain, les Ducks de l'Oregon, qui ont un stade d'ailleurs de 54 000 places qui est très impressionnant, évidemment équipé par la marque à la virgule. C'est la même chose pour tous les autres sports, dont l'athlétisme. Les Ducks de l'Oregon athlétisme sont très connus à travers les États-Unis. C'est vraiment très impressionnant. Et puis on aura aussi un public de fous, parce qu'ils sont vraiment passionnés d'athlétisme. Et si on a le temps, on peut écouter d'ailleurs Ninon Chapelle, la perchiste française, qui était déjà venue ici chez les juniors pour une compétition junior. Et elle raconte ses souvenirs de ce public américain passionné d'athlétisme.
Avant, il y avait deux petites tribunes, dont une petite tribune en bois. C'est vrai que c'était un petit stade, mais c'était impressionnant parce que déjà chez les juniors, ce stade était blindé. Avec beaucoup d'engouement, les gens étaient de vrais supporters, quoi, vraiment. Je pense que là ils ont agrandi la tribune, c'est un stade tout neuf. Je pense que l'ambiance va être folle, ouais.
Alors Aurélien, c'est tout de même une crainte que l'on a, c'est le manque d'engouement sur place. On l'a dit, c'est assez difficile d'accès, 2 heures de route de Portland, et c'est vrai que les dernières compètes qui s'y sont déroulées, il n'y a pas eu une affluence géniale, hein, malheureusement.
C'est un petit stade. De toute façon, il n'y a pas eu beaucoup de monde pour les trials américains. C'est vrai. Alors, il faisait une très très grosse chaleur ce week-end-là. Pour les championnats du monde, on espère quand même remplir le stade. Normalement, qui fait 12 500 places. Là, ils ont rajouté. Les organisateurs ont ajouté des tribunes temporaires. On a porté la capacité du stade à 24 000 supporters. Et Ninon Chapelle le disait. Même en junior, il y avait vraiment une grosse ambiance. C'est pas une grande ville, hein, c'est 175 000 habitants à l'échelle des États-Unis, c'est tout petit. Alors on est assez loin, voilà, de Portland, de Seattle. Malgré tout, ça reste la capitale des États-Unis. C'est la première fois de l'histoire que les championnats du monde ont lieu ici. On espère quand même voir une très très belle ambiance pour ces championnats du monde. En plus, il y a des stars américaines partout. Ouais. Le 110 mètres avec Grant Holloway, avec Devon Allen. Alors il y a quelques absents aussi. On peut citer Sam Kendricks à la perche ou Diana Price au lancer du poids chez les femmes, qui sont de vraies stars. Mais bon, on s'inquiète pas trop. A priori, ça devrait être très sympa.
Et puis, il y a une légende qui va tirer sa révérence, c'est Alison Felix, 36 ans, qui sera bien présente et voilà, qui va disputer ses derniers mondiaux. Là aussi, elle devrait être ovationnée, a priori, sur ces championnats du monde.
Bah, il faut qu'elle soit votionnée. De toute façon, c'est l'athlète la plus médaillée de l'histoire des championnats du monde. Donc, on peut pas faire beaucoup mieux.
Alyssa 18 Pilus, médailles en 7 éditions. Incroyable.
Ouais, exactement. Et là, elle sera alignée simplement sur le 4x400 mètres mixte. C'est la deuxième fois de
l'histoire. On lui a trouvé une course pour qu'elle soit là, quoi, en fait.
Ouais, exactement. Bah, en individuel, ça a commencé un petit peu compliqué. Surtout avec le niveau américain, évidemment, mais le 4x400 mixte. La finale, d'ailleurs, bah, ce sera vendredi soir. C'est la première finale de ces championnats du monde.
Et voilà. Donc, on suivra ça avec toi, évidemment. 18h51 sur RMC, l'Intégral Sport. On vous présente les mondiaux d'athlétisme qui démarrent demain à Eugene, en Oregon, aux États-Unis, avec Aurélien Tiercin qui est sur place. Aurélien, parlons de l'équipe de France. Un choix a été fait par la Fédé d'athlétisme. Le choix de partir avec une équipe resserrée. Et surtout avec une génération qui semble capable de briller aux Jeux de Paris en 2024. C'est un choix assumé de la part des dirigeants de la fédération.
Ouais, exactement. Ça a créé quelques petits remous. On a dit, mais pourquoi on prend pas tout le monde, leur donner de l'expérience en vue des Jeux de Paris? Alors déjà, il y a les championnats d'Europe à Munich au mois d'août. Ouais. Donc là, il y aura beaucoup plus de jeunes. Mais pour cette édition des championnats du monde, effectivement, on n'a pas beaucoup d'athlètes en individuel. Il y en a 28 en individuel. On aura notamment la génération 2024, tu l'as dit, qui brille déjà parce qu'on ne prend uniquement que des demi-finalistes potentiels. Donc il faut faire partie du top 16 mondial. Et la tête d'affiche, ça, c'est Sacha Zoya. Il a zéro sélection avec les seniors en équipe de France, mais sur le 110 mètres haies, le franco-australien, qui est d'ailleurs champion du monde junior en titre, recordman du monde junior, il avait explosé l'ancien record du monde qui appartenait déjà à un Français, Willem Belossian. Sacha Zoya veut commencer très très fort sa carrière chez les seniors. Il s'est qualifié de justesse au championnat de France à la fin du mois de juin, mais il est vraiment en train de monter en puissance et on peut l'écouter.
Lui, il
ne veut viser que le top du top.
Un championnat du monde réussi, c'est bon, une médaille d'or autour du cou. Dans l'esprit, c'est pour y aller pour l'expérience. Mais moi, je suis quelqu'un, j'ai l'expérience, c'est de prendre une médaille aussi. Hein. Voilà, prendre une médaille, prendre la première médaille, écoute, c'est le but.
Voilà, rappelez qu'on l'avait identifié rapidement comme un énorme potentiel sur cette distance du 110 mètres haies. Rappelez que les haies en junior sont un peu plus basses. Hein, c'était la différence. Il fallait s'adapter pour Sacha Zoya. Mais il nous a impressionné lors des championnats de France et on espère qu'il va confirmer. Il fait partie des meilleurs perfs mondiales de l'année en plus. Hein, donc c'est une vraie chance de médaille française, hein, Aurélien.
Ah bah oui, 13-17, il a remporté les championnats de France en 13 secondes 17 en tapant 5 haies sur plus, 10. Ouais. Alors donc, lui, il a carrément envie de viser les moins de 13 secondes. S'il fait ça, c'est quasiment titre de champion du monde assuré et il se rapprocherait du record de France de Pascal Martineau Lagarde. Il a l'air très très fort. Encore faut-il, parce que son entraîneur, c'est Ladji Doucouré, c'est une légende du 110 mètres haies, seul champion du monde français de l'histoire du 110 mètres haies.
Un peu d'expérience.
Il a dit, bon... Ouais. Voilà, parce que les championnats du monde, faut aussi passer des tours. Il faut passer les séries, demi-finale et ensuite la finale. Parce qu'il y a Willem Belossian qui était l'ancien recordman du monde junior. C'était déjà un Français sur 110 mètres haies. Lui, dans les grandes compétitions aux Mondiaux et aux Jeux Olympiques, il a toujours déçu. Il a, par exemple, au dernier jeu de Tokyo, tapé la première haie. Il a abandonné. Au jeu de Rio, faux départ. Donc tout ça, ça arrive aussi. Les haies, c'est vraiment un sport où il y a beaucoup d'incertitudes.
Prendre les championnats du monde comme un élan pour les championnats d'Europe à Munich, qui reste pour moi le plus important cette année, et là où vraiment je veux être au top de ma saison.
Alors celui que vous venez d'entendre, voilà, c'est Jimmy Gressier, voilà, dont on voulait parler aussi, parce que c'est l'autre jeune qu'on a envie de suivre sur ces mondiaux d'athlétisme, un spécialiste du 5000 et du 10 000, qui lui aussi cartonne dans ses différentes catégories et qui est une vraie chance de médaille aussi, hein, d'ailleurs, Aurélien.
Ouais, alors comme il l'a dit, plutôt pour les championnats d'Europe, lui il peut carrément viser le titre de champion d'Europe. Au championnat du monde, malheureusement pour lui, il y a les Africains notamment qui sont beaucoup trop forts pour l'instant sur ces distances-là. Jimmy Gressier qui a d'ailleurs choisi de ne faire que le 10 000 mètres et de ne pas doubler avec le 5 000 mètres. Il était pourtant qualifié pour les deux épreuves, mais il va se concentrer sur le 10 000 mètres, le gamin de Boulogne-sur-Mer. Mais il est vraiment en train de monter en puissance. Il a été finaliste du 5 000 mètres aux Jeux Olympiques. Ouais. Il commence vraiment à prendre de l'expérience. Il a les armes en tout cas pour viser les premières places. Il a envie de viser un top 8, ce qui serait qualifié de finaliste, parce qu'en fait il y a pas de demi-finale sur le 2000 mètres, on fait la finale directement, mais quand on termine dans le top 8, on est qualifié de finaliste. C'est l'objectif de Jimmy Gressier avant de monter encore en puissance d'ici Munich les Europes, pour là viser une médaille.
Voilà, donc c'est une distance difficile pour lui, pour Jimmy Gressier. On va le suivre tout au long de cette semaine. Donne-nous le programme justement qui nous attend ce week-end déjà, Aurélien. Quelques Français qui seront là, je pense à Quentin Bigot notamment, qui sera d'entrée sur la piste, hein.
Ouais, le vice-champion du monde en titre du lancer du marteau, il avait eu sa médaille d'argent à Doha, donc ça sera le premier gros morceau pour les Bleus. Demain, 19h30, heure française, qualification donc du marteau pour Quentin Bigot. Il y aura aussi Yann Chaussinan, le petit jeune fils de David Chaussinan, qui avait été lui finaliste à Sydney en 2000 au lancer du marteau, donc Yann Chaussinan également. Et puis dans heure française, dans la nuit de vendredi à samedi, il y aura les séries du 3000 mètres steeple avec Mehdi Belhadj, qui est en bonne forme, la perche féminine avec Ninon Chapelle qu'on a entendu tout à l'heure, la record woman de France qui revient d'une grossesse qui a donné naissance à un petit garçon il y a 17 mois, donc qui revient avec le maillot de l'équipe de France aux côtés de Margot Chevrier qui elle s'est approchée tout proche de son record de France. Margot Chevrier qui est en forme, qui a la troisième performance mondiale de l'année, donc pourquoi pas aussi avoir une belle surprise de cette génération 2024. Et puis samedi on aura le 110 mètres haies avec le très très attendu Sacha Zoya, on l'a écouté, Pascal Martino Lagarde,
eh oui,
évidemment le multi-médaillé européen et mondial Pascal Martino Lagarde. Il y aura aussi la finale du 100 mètres hommes, toujours dans la nuit parce que les horaires sont pas très arrangeants pour l'Europe, dans la nuit de vendredi à samedi avec Marcel Jacobs, le double champion olympique italien, Fred Curley l'américain, Johan Blake le jamaïcain qui est toujours là. Et puis dimanche on aura notamment la finale du 100 mètres femmes avec le duel jamaïcano-jamaïcain, Shelly-Ann Fraser-Pryce, Helen Thompson qui se tire la bourre et qui se rapproche du record du monde de Florence Griffith Joyner qui date de plusieurs décennies maintenant, des années 80. Bon. Et il pourrait peut-être tomber sur la rapide piste de Eugene.
Pas mal de grands moments qu'on va suivre, évidemment à distance avec toi, tu es sur place. Merci Aurélien Tiercin, on te retrouve dès demain justement pour continuer de parler de ces championnats du monde d'athlétisme en direct de Eugene, en Oregon. Bah, bon après-midi à toi du coup Aurélien, hein, et oui, on se retrouve demain. Et puis à 18h58 sur RMC, on redonne la parole à Christophe Cessieux, l'after tour débriefé, l'arrivée au sommet de l'Alpe d'Huez et la victoire du Britannique Tom Pidcock, et surtout la performance de Vingegaard qui a conforté son maillot, enfin en tout cas qui l'a gardé et qui ne s'est pas fait peur par rapport à Pogacar, hein, Christophe.
Effectivement Benoît, il a réussi aujourd'hui à limiter et à empêcher Pogacar de lui reprendre à la moindre seconde. Pogacar qui a perdu une grosse occasion de revenir évidemment et d'espérer aller décrocher ce maillot jaune. On va revenir sur cette étape qui a été plutôt décevante, mais après le feu d'artifice d'hier, il semblait quand même difficile de voir la même chose. Pidcock s'impose donc, c'est un jeune coureur britannique appelé à un bel avenir. Et puis on s'intéressera également aux Français, Romain Bardet et David Gaudu, qui ont perdu un peu de terrain aujourd'hui, notamment en raison de la chaleur. Ça a été le cas de Romain Bardet, mais qui limite les dégâts. Voilà, l'after tour débute dans quelques instants et c'est jusqu'à 20h. On vous attend également au 32-16 pour poser vos questions à Cyril et à Jérôme, qui seront un plaisir, je l'espère, d'y répondre. À tout de suite.